Ce matin, vous descendez deux semaines de vêtements par l'ascenseur empaquetés dans deux valises. Vous les portez jusqu'à la voiture, tu passes voir dans la chambre de Simon s'il n'a rien oublié. Tu ne vois pas la photo sur la table de chevet, il l'a emportée. Ça te touche, mais tu ne lui en parles pas. Pablo et les égards, cette distance. Les bagages rentrent in extremis dans le coffre de la petite voiture rouge. Simon s'est apprêté pour le voyage. Belle chemise, Bermuda. Le premier jour, vous roulez jusqu'à Genève. Passez la douane. Ça peut sembler banal, mais pour ton fils, c'est un événement. Il imagine sûrement que de l'autre côté, la vie est différente. Elle l'est, mais c'est imperceptible au premier regard. Alors tu lui montres en quoi. Il fait encore jour lorsque vous arrivez à l'hôtel. Oui, les journées sont longues en été. Vous prenez une mouette pour traverser le lac et vous marchez jusqu'au pied du jet d'eau. Le visage de Simon, halluciné par la force de l'eau, trempé par les embruns. Cette fois, il ne rit pas, il ne tourne pas sur lui-même. Non, il reste près de toi, il te tient par la main. Parce que tu es son père, parce que tu le rassures. Vous mangez près de l'eau, assis côte à côte sur un banc. Du pain et du fromage que tu as acheté dans une épicerie pas loin. Et puis vous rejoignez l'hôtel. Vous dormez dans la même chambre, il pose la photo sur sa table de chevet. Sommeil. Le deuxième jour vous conduit jusqu'à Florence, la petite voiture tient le coup. Simon fait l'expérience d'un pays tout entier qui parle une langue qui lui soit étrangère. Imagine Pablo ce que ça représente pour lui qui aime tant parler et comprendre. Il écoute. L'après-midi du troisième jour, vous arrivez à Naples. Les abords de la ville sont un peu rugueux, les immeubles rongés par la chaleur, les détritus, la cohue. D'habitude, Simon est la tempête au milieu du calme que tu lui assures. Ici, c'est le contraire. Il observe en silence, en animal inquiet qu'on aurait sorti de son milieu naturel. Il te touche, Pablo. Et tu sens vite que ce voyage sera fondateur pour ton fils. Tu sens que par ce voyage, mille questions surgiront dans sa vie. Vous arrivez au port, tu gares la voiture au parking, elle est poussiéreuse, elle est courageuse. Vous allez vers les guichets, tu achètes les billets, le bateau arrive et Simon t'observe incrédule y charger la voiture, parmi des dizaines d'autres. Vous montez sur le pont, vous regardez le large, vous vous tenez debout l'un contre l'autre sans un mot. Le bateau accoste, vous reprenez la voiture et roulez tandis que la nuit tombe sur les routes étroites de l'île jusqu'à une petite maison que tu as louée. Une voisine vous accueille, vous parlez peu, elle a préparé un gâteau en guise de bienvenue. Elle scrute Simon puis l'embrasse au moment de partir, elle te laisse les clés, vous êtes seul dans la maison. Simon est épuisé, tant d'habitude bousculé pour un enfant de son âge. Il mange un peu de gâteau, il t'aide à préparer son lit parce qu'il craint d'être seul, ailleurs dans la maison. Tu le bordes, il s'allonge et s'endort. Bonne nuit, Simon. Le jour se lève sur la petite maison italienne. Tu es sorti sans faire de bruit, acheter de quoi petit déjeuner. Maintenant, tu t'affaires dans la cuisine. Tu sors un instant, une tasse de café à la main. Tu respires la fumée du café pour mieux sentir l'air marin. Tu es sur la terrasse de la maison, les murs irréguliers aux couleurs vives du jaune et du bleu. Tu regardes la mer, tu es ému, Pablo, et nous savons pourquoi. Tu retournes à l'intérieur pour chercher de quoi mettre la table et tu es moins discret. Tu produis volontairement des sons familiers à Simon, sons du matin pour qu'il se réveille en confiance. Tu allumes la radio, un filet de musique entrecoupé de mots italiens. Le son d'une porte qui grince, ton fils qui apparaît. Son corps élancé, son beau visage symétrique, les traits fins. Il te sourit à pleines dents et se jette dans tes bras. Il est chaud comme celui qui sort à peine du lit. Tu l'embrasses. Il parle de quoi ? Te demande-t-il. Toi, tu ne sais pas. Tu ne comprends pas l'italien non plus. Seulement quelques mots. Tu demandes à Simon s'il veut manger, il a une faim de loup, te dit-il avec une excitation qu'il avait perdue les trois jours passés. Tu retrouves ton fils, la tempête, vous rejoignez la terrasse, lumière matinale oblique et chaude. Simon s'attable, il dévore son repas comme un loup donc, et il te parle sans relâche. le compte-rendu des 3 jours qu'il vient de vivre comme si tu ne les avais pas vécus toi-même. Tu l'écoutes avec tendresse, tu regardes le monde avec ses yeux d'enfant et tu le laisses un instant, tu veux plus de café. Tu reviens, Simon est silencieux, tu lui parles et il ne t'écoute pas. Il a le regard plongé dans le mur jaune devant lui, un petit éclat à la surface du mur. Tu t'assois à ses côtés, le bras sur son épaule, tu l'étreins. Simon se met à pleurer comme si ta présence l'avait rendu possible. Il parle des mots que tu ne comprends pas, étouffé par les sanglots. Tu embrasses ses cheveux. Toi, tu contiens ton émotion, parce que cette fois, tu ne peux pas, Pablo, plonger dans l'abîme. Tu es responsable de ce petit être, c'est le tien. Simon pleure comme seuls font les enfants, genre de chant dissonant, d'appel au secours, effet d'une émotion trop intense pour être libérée au rythme où elle se crée, qui se cogne dans le corps, qui se bouscule pour en échapper. Ses pleurs te transpercent autant qu'ils te libèrent et puis ils faiblissent. Tu tiens ton fils dans tes bras, son corps inerte, tu voulais lui dire Pablo mais tu ne savais pas comment. Isaac t'a montré comment être, il ne savait pas lui-même comment dire. C'est contre ce mur, au bord de l'éclat, dans ce mur que tu as photographié la mère de ton fils, la mère qu'il n'a pas eue. C'est cette photographie que Simon emporte où il est et dont il connaît maintenant, tu le sais, tous les détails. Tu ne t'attendais pas à une réaction si intense. Tu pensais lui montrer la maison de vacances où tu l'avais aimée comme on va au musée. Ce matin-là, tu réalises que ton fils est traversé par une faille par où jaillit l'abîme, le sans-fond, et ça te rassure. Tu passes la matinée à lui parler de vous, d'elle. D'abord, il écoute sans un mot et peu à peu, tu le vois renaître. Il t'inonde de questions. Chaque question te soulage. Toi qui ne trouves aucune vertu dans le fait de parler, tu parles sans relâche. Chaque mot que tu prononces nourrit le lien qui te lie à Simon. Vous sortez de la maison, fort. Il n'y a pas un pas que ton fils ait posé sur le sol de cette île, pas une vague où il se soit baigné qui ne lui rappelle sa mère. Rebecca naît à ses yeux. D'habitude, tu aimes l'intensité de ce qui s'achève, pas cette fois. Les derniers jours avant le départ sont comme une déchirure. Tu as un fils, mais tu restes un enfant, Pablo. Tu fais tout ce que tu peux pour éviter que ça se sache, c'est tout. C'est à quoi servent les usages, les égards, les rituels que t'a montré Isaac. Il protège. Ta tristesse est immense comme celle de ton fils. Vous êtes au bord de l'abîme, l'image de l'épicerie est insoutenable ici, le jour d'avant le jour où vous allez partir. Simon parle peu, il a la gorge nouée comme l'enfant qui s'apprête à être arraché à sa mère qu'il vient pourtant de retrouver. C'est toi qui l'arracheras, penses-tu, et cette idée te mine. Il faut que je te dise, Pablo, il n'y aura plus de cérémonie, tu ne perdras pas ton fils, il ne se noiera pas, pas d'accident de voiture, pas de guerre où il sera tué. La vie ne peut pas toujours être tragique. Il t'aimera. Un jour même, il te conduira jusqu'à la maison d'été en Italie. Tu seras vieux, il sera dans la force de l'âge, tu seras assis près de lui, fier de sa conduite, bien qu'un peu nerveuse. La vie prend juste ce qu'elle donne, c'est tout.